Lors d'une cérémonie de naturalisation qu'il présidait hier au Panthéon, le chef de l'État a prononcé un discours pour les 150 ans de la proclamation de la République, le 4 septembre 1870, et il a tenu à rappeler à quel point la République française forme un bloc et doit le rester.
La République, c'est une transmission. Et la République est une volonté. Jamais achevée, toujours à reconquérir. Et si elle tient depuis la Révolution, c'est parce qu'entre ceux qui l'ont rêvée, ceux qui l'ont fait advenir, ceux qui l'ont défendue, parfois dans les heures les plus tragiques de notre histoire, ceux qui l'ont renouvelée dans le projet européen, entre toutes ces femmes et tous ces hommes, s'est nouée une chaîne des temps qui a traversé les siècles. Et en ce jour anniversaire, ce n'est pas tant la joie qui domine, je dois bien l'avouer, qu'une forme de gravité lucide face aux menaces qui pèsent sur elle.
Bonjour Vincent Peillon.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien ministre et philosophe du politique, vous avez consacré de nombreux ouvrages à la philosophie républicaine. Le nouveau paraîtra au PUF le 16 septembre prochain. C'est un recueil d'essais, de textes, d'articles, de colloques, de conférences. Il est intitulé « L'émancipation ». Et peut-être reviendra-t-on sur ce beau mot d'émancipation. On entendait un bout du discours d'Emmanuel Macron hier. La République est une transmission, une volonté toujours à reconquérir. Vous êtes d'accord avec cette définition de la République française ?
Dans la mesure où, pour partie, la République est un idéal, en même temps qu'elle est notre mode d'organisation politique, bien entendu, parce qu'elle est construite sur une dialectique, prenez la devise. Beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles disent « mais liberté, égalité, fraternité », mais ce n'est pas le cas. Bon. Mais bien entendu, ce n'est pas le cas. Et personne n'a jamais dit que c'était le cas. On se l'est fixé comme idéal. Et donc, il faut le garder parce que ça permet de transformer la réalité. Quand vous n'avez plus de rêve ou que vous n'avez plus d'idéal, vous n'avez pas d'outils pour vous dire il faut changer. Donc oui, la République est un mouvement et dans le fond, une dialectique avec des moments sombres, que n'a pas d'ailleurs, à mon avis, correctement évoqué le président hier, des moments sombres où la réalité est très éloignée de l'idéal et puis des moments où l'idéal arrive, voilà, à en tout cas remodeler la réalité. Prenez un exemple pour que je sois clair sur ce que je veux dire. Quand on dit 1870, curieuse république à ce moment-là, c'était un choix un peu d'opportunité par rapport au débat d'actualité. Je ne lui en fais pas reproche, mais bon, on voit bien l'instrumentalisation de tout ça. C'est pas le grand moment de la République, 1870. La République s'est établie la troisième quelques années plus tard et la République, c'est avant la première et la deuxième. Bon, celle-là a été la République conservatrice. Mais il nous dit il y a eu 150 ans de République. Mais non. Il y a un moment où liberté, égalité, fraternité n'est pas la devise de la France. C'est travail, famille, patrie. Et il a cité Marc Bloch, qui a été, comme vous le savez, tué par les Allemands, qui, dans son argumentation, Marc Bloch est républicain. Mais être républicain à ce moment-là, en France, ça vous conduit à la mort, si vous êtes proche de cet idéal et que vous voulez le faire respecter, qui débouchera sur les jours heureux et le pacte républicain depuis le début de la 4e République. Donc, notre histoire, elle est assez belle en cela, mais il ne faut pas la simplifier. Il ne faut pas en faire une théologie, un dogmatisme, la République. La République, c'est une dialectique complexe entre un idéal très articulé, et il ne l'est pas beaucoup dans tous les propos qu'on a entendus, et des réalités qui, parfois, sont un peu étranges. Et aujourd'hui, le paradoxe de notre situation, c'est que se réclame de la République d'abord tout le monde. Vous voyez bien, déjà, le parti du président s'appelle La République En Marche. Le parti de droite s'appelle Les Républicains. Donc, c'est devenu une espèce de talisman. Et on voit l'extrême droite française mener sa bataille sur des thèmes, la laïcité, le patriotisme, qui sont des thèmes qui appartiennent à la culture républicaine. Et donc, un espèce de retournement, une espèce de falsification, comme l'avait dit Jean Bambéro, qui, à mon avis, est assez préoccupante et sur laquelle il faut s'exprimer et essayer de redonner le sens réel de la République, y compris, comme je le disais, dans ses contradictions ou ses tensions.
Et c'est d'ailleurs l'objet de ce livre, L'émancipation, que vous faites paraître dans les prochains jours, Vincent Peillon, puisque vous battez en brèche un certain nombre d'idées reçues sur cette idée républicaine. Vous dites qu'aujourd'hui s'est installée une forme de néo-républicanisme nostalgique, sépia, antimoderne, qui utilise les mots de tradition républicaine, comme patrie, laïcité, instruction, pour leur faire dire le contraire de ce qu'ils veulent dire, comme s'il y avait de faux républicains. Alors, qu'est-ce qu'être vraiment républicain, selon vous, Vincent Peillon ?
C'est un paradoxe de l'histoire française qui, à mon avis, m'intéresse depuis très longtemps et nous coûte un peu. Ce paradoxe, c'est que sur des sujets majeurs, j'en prends un par exemple, la question de la nation. Traditionnellement, depuis la Révolution française, mais c'était un héritage, les républicains ne sont pas contre la nation. Ils ont même porté l'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire l'idée que la nation était émancipatrice au XIXe siècle pour les individus, mais ils ont toujours ajouté il faut organiser ces nations entre elles de façon pacifique, et ils ont porté le rêve cosmopolitique, et même très tôt européen. Pensez à Victor Hugo, Congrès de la paix et de la liberté au XIXe siècle, mais déjà, évidemment, à ce que Rousseau pouvait écrire sur la paix perpétuelle. Donc, nous avons toujours concilié, ce qu'on retrouve après, l'idée de nation en tant qu'elle est émancipatrice, pas n'importe quelle nation, pas la nation nationaliste fermée, et ça a été d'ailleurs assez bien rappelé, je trouve, par le président Macron hier, et une dimension qui va plus loin. C'est vrai que le grand historien de la République, Claude Nicolet, en 1992, qui était la tête pensante de Jean-Pierre Chevènement et donc de tout un courant qui se prétend républicain, s'est éloigné de lui en disant « il est en train de ne pas comprendre qu'il y a dans la République toujours un passage à l'universel ». Et il est en train de nous vendre une République qui se replie sur elle-même. Et aujourd'hui, nous avons ça, c'est-à-dire que nous voyons beaucoup de républicains, que j'appelle réactionnaires ou conservateurs, qui utilisent d'ailleurs parfois, c'est le cas de Marine Le Pen, le terme « patriotisme », qui signifiait à l'époque cette ouverture de la nation à l'universel, pour être sur un repli nationaliste. Et donc, on voit que on a inversé le sens des termes. Être républicain aujourd'hui, pour certains journaux, pour certains éditorialistes, c'est être nationaliste, au mauvais sens du terme, la nation fermée. Le terme de patriote s'est opposé tout au long du XIXe siècle au terme de nationaliste. Être patriote, c'est être pour la nation ouverte, la nation européenne, la nation universelle, le cosmopolitique. Et on voit comment les termes aujourd'hui sont tronqués. Qu'est-ce que dit Marine Le Pen ? Soyons patriotes, mais elle, ça veut dire fermons la nation au reste du monde.
Mais quand Emmanuel Macron utilise ce terme de patriotisme républicain, comment l'entendre ?
Je crois que lui, hier, comprend bien cette définition républicaine, patriotique de la nation. Il l'a fait à travers cette idée que nous sommes une nation de droit et pas une nation de sang ou une nation d'héritage. Et donc, être français en République, c'est choisir les valeurs de la République et un code de droit et de devoir qui l'accompagne. Dès lors, ce qu'avait fait la Révolution française à l'égard d'étrangers, ça a été la grande noblesse de la Révolution française de déclarer à ce moment-là, concernant la citoyenneté française, qu'un certain nombre de gens, Pestalozzi, enfin des étrangers, devenaient français dès lors qu'ils adhéraient à nos valeurs. Bon. Ça, c'est notre tradition. Et je crois que là, Macron, hier, enfin dans ce que j'ai entendu, mais je l'avais déjà entendu sur ce sujet, le porte bien. Il faut que vous sachiez qu'après l'affaire Dreyfus, ça a été un très grand débat en France. Il y a par exemple un écrit de Ferdinand Buisson, prix Nobel de la paix, qui disait « Pourquoi je suis patriote et je ne suis pas nationaliste ?» C'est le titre, on voit bien la différence. Et on voit bien comment aujourd'hui l'extrême droite, mais très au-delà, est en train d'inverser. Et on voit bien comment même une certaine gauche, dans le fond, c'est l'exemple que je prenais entre Chevènement et Claude Nicolet, une certaine gauche s'est progressivement un peu laissée aller à identifier, dans le fond, le patriotisme, la citoyenneté française, avec une nation fermée. Alors, une nation anti ses régions, anti sa diversité à l'intérieur, et une nation, disons, fermée à l'égard des autres nations à l'extérieur. Ça, c'est un danger. Je pourrais prendre un deuxième exemple de ce que vous m'avez demandé, sur l'instruction. C'est très comique pour un spécialiste de l'éducation de voir, ou très étrange, ou très dérangeant dans le fond, et ça vous explique pourquoi nous sommes le pays qui a le plus d'inégalités scolaires, et que ça perdure. Depuis deux siècles, le modèle républicain, celui qui a été, et je le raconte dans le livre, dans un colloque que j'avais fait en Suisse, les Jacobins, ce qu'on a appelé les Jacobins, puis qui ont créé la revue encyclopédique, ont amené en France, et donc qui ont toujours pensé qu'on transformerait la République par l'école, que c'était son socle. Et les journaux aussi, on pourrait en parler. Donc les deux piliers d'une république, c'était comment on construit l'opinion publique, puisque nous devons être des citoyens indépendants, lucides, pouvant juger. C'était les journaux et c'était l'école. Du point de vue de l'école, pour construire un citoyen autonome, capable de choisir par lui-même, mais il faut donner à l'enfant qu'il est, eh bien, les moyens de sa liberté. Donc c'était une éducation libérale, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire travail en groupe, travail décloisonné, possibilité d'être en situation, comme on dit, active. Donc tout ce que les républicains d'aujourd'hui, avec mépris, disent le pédagogisme. Et il faut quand même savoir que ce sont les républicaires de la Troisième République qui créent les premiers chaires de pédagogie. Et que vous entendez un certain nombre de ministres, de grands intellectuels dire « Ah, l'école d'autrefois, la Troisième République, eux au moins ils n'étaient pas, c'était la République contre la pédagogie ». Ils sont les premiers à marquer par ces affirmations qu'ils sont d'abord des ignorants et qu'ils devraient retourner à l'école. Car en réalité, la Troisième République a créé les chaires de pédagogie et le grand homme en pédagogie de Jules Ferry et aussi de Ferdinand Buisson, ce sont ces pédagogies, je dirais, d'origine protestante qui sont celles de Pestalozzi, etc. Et que, d'ailleurs, dans le livre, je cite dans un certain nombre d'articles des propos de Jules Ferry disant « Nous devons mettre en place cette école ». Et nous avons toujours échoué. Et nous revenons toujours à l'école de l'autorité, à l'école du récit national, à l'école de chacun à sa place, isolé, on ne doit pas fermer, qui est l'école des frères chrétiens. Dans le fond, derrière cette affaire se cache une grande question française qui est le théologico-politique. Et donc on voit, les réformateurs de l'école républicaine sont en réalité ceux qui sont du côté de la pédagogie, c'est-à-dire simplement... Enfin, vous imaginez, il faut savoir enseigner. On est le seul pays, avant que nous, la gauche, revenions au pouvoir en 2012, qui avait supprimé la formation des enseignants. C'est-à-dire qu'on peut confier un enfant, 30 enfants dans une classe, pour apprendre à lire et à écrire à quelqu'un qui n'a jamais été formé. C'est le seul pays du monde qui faisait ça. Bon, donc c'est vous dire cette fausse idée. Donc sur l'école aussi, on a tout un discours républicain qui est en fait exactement le contraire de ce que déclaraient les grands républicains qui ont mis en place notre école républicaine.
Vincent Peillon, pour en revenir au discours d'hier d'Emmanuel Macron, il a beaucoup insisté, le président de la République, sur le terme d'intégration. Il a cité les noms de Marie Curie, de Léon Gambetta, de Félix Éboué, de Joséphine Baker, de Gisèle Halimi. Et mais il a aussi parlé de Peggy, Jaurès, Blum, Mendès France, Marc Bloch, vous l'avez dit, Baudin, l'abbé Grégoire, Condorcet, Rousseau, Peggy, il y en a eu beaucoup. Parce que cette cérémonie, pour en revenir à la date, non seulement elle portait sur cet anniversaire du 4 septembre 1870, mais elle se tenait lors d'une cérémonie de naturalisation. Est-ce que vous trouvez que c'était une bonne idée de mêler les deux ? Quel sens politique pouvait avoir cette idée d'invoquer les questions de naturalisation en prenant appui sur cette date anniversaire de la République malgré tout ?
Parce que vous posez une très très bonne question. Moi, vous savez, quand je suis éloigné de la vie politique et je regarde les choses évidemment différemment. J'étais très étonné dans cette pression qu'il y a sur le débat sur la République ces derniers temps de voir qu'on avait les mêmes amalgames. On a aussi l'ouverture du procès de Charlie Hebdo. Et tout d'un coup, on va tout mélanger. La question des étrangers, la question de la naturalisation, la question du terrorisme, la question de l'islam, la question de... Ça, bon, c'est servir la soupe à l'extrême droite pour l'avenir. On voit bien comme les questions de sécurité qui reviennent et qui sont en train de vouloir éliminer les questions sociales. Avec les gilets jaunes, l'année dernière, on avait à nouveau un agenda social et émancipateur en France. On pouvait se poser la question des libertés, on pouvait se poser la question de l'égalité. Très mal traitée la question de l'égalité, très mal comprise dans le discours de Macron. Je ne sais pas qui travaille pour lui là-dessus, mais ce n'était pas bien fait.
Pourquoi c'était pas bien fait?
Il me faudra un peu de temps, je finis juste là-dessus. On voit bien, mais j'y reviens avec plaisir, hein. On voit bien qu'il y a ce problème de calendrier. Et sur ce que vous dites, je crois, c'est d'ailleurs la plus belle partie de son discours. Il devait s'en tenir là. Rappeler à la France que notre conception de la citoyenneté, c'est la possibilité d'accueillir des gens qui viennent d'horizons très différents. Il a fait des beaux rappels quand même sur des grandes figures françaises, dont Gambetta, qui était fils d'immigrés. Il y a eu toute cette immigration italienne qui a été extrêmement importante, et dont il faut se souvenir. Si vous connaissez le sud de la France, qu'elle a donné lieu aussi à des violences à l'époque. Ça n'a pas été simple, hein, comme les Polonais, comme les... Bon. Mais ça, c'est le creuset français, et c'est notre conception de la citoyenneté, que nous voulons d'ailleurs donner en exemple au monde, notre conception du droit et de la justice. Moi, ça m'aurait suffi. Ça m'aurait suffi plutôt qu'un certain nombre de choses approximatives. Sur l'égalité, pourquoi ? Ben parce que je vais très vite, mais... La conception de la liberté dont a parlé M. Macron n'est pas la conception républicaine. La conception républicaine, elle est précisément qu'il ne peut pas y avoir, c'est dans Rousseau, c'est dans la Révolution française, c'est dans Robespierre, c'est dans les textes de 48, sans égalité. On ne sépare pas dans la devise des trois termes. Or, l'égalité dont nous parlons est une égalité de droit. Alors là, vous voyez, on rigole. Parce que comme grande conquête que les femmes aient le droit de vote en 45, dans beaucoup d'autres pays, elles l'avaient avant. On voit que la République réelle, il faut quand même pas toujours la magnifier. Sinon, on manque un peu d'esprit critique. Mais cette égalité, elle est économique et sociale. Et ça vient de très loin. Dans l'idéologie républicaine, qui n'est pas que française, je vous rappelle, il y a eu la Révolution anglaise, la Révolution hollandaise, nous en sommes inspirés, il y a la République des Hébreux, qui est très vieille et qui est un modèle. C'était, je suis désolé de le dire à M. Macron, pas la théorie du ruissellement. C'était le partage des terres, c'était l'égalité entre les uns et les autres. Et tous les 50 ans, quand l'inégalité se recréait, fallait non seulement libérer les esclaves, émancipation, mais fallait revenir à une égalité des possessions. Sinon, une société où il y a trop d'inégalités est une société où il n'y a pas de liberté et où la violence arrive. C'est un des risques de notre société. Il y a goûté depuis 2 ans.
Il a d'ailleurs fait de l'égalité concrète le fil rouge de la fin de son quinquennat.
Oui, mais l'égalité concrète, il faut la décliner et dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que cette égalité, c'est une égalité économique et sociale.
Vous êtes côté optimiste ou côté pessimiste, Vincent Peillon ? En la matière, c'est-à-dire stratégie de la gauche, reconquête, réinvention de la gauche.
Non, je suis fondamentalement optimiste. Après, je ne connais pas exactement le timing. Ce que je sais, et je crois qu'en ce sens, Christian Paul, que j'aime bien et que je connais bien, a raison, on ne s'en sortira pas, on ne s'en est jamais sorti d'ailleurs. Ni à l'intérieur du Parti Socialiste, qui va avoir un congrès, il faut arrêter de penser que ça n'existe pas. On l'a vu, municipal, c'est une grande histoire, réédité là à l'échelle humaine de Léon Blum. On ne va pas rayer cette histoire, on ne va pas faire ce plaisir quand même à tous les réactionnaires de faire comme s'il n'y avait pas d'histoire du socialisme dans ce pays. Et en même temps, c'est une réalité avec des gens d'ailleurs beaucoup plus jeunes que moi. Moi, je suis frappé partout de découvrir des jeunes maires, des gens sur les listes, des militants. Donc, Parti Socialiste déjà, parce que je vois certains qui de l'intérieur l'attaquent, comme toujours, souvent des vieux chevaux de retour, il doit se rassembler. Et il doit se rassembler autour d'idées simples et claires. Parce que ça fait un peu défaut ces dernières années. Et on nous en a beaucoup voulu. Bon, à juste titre. Quand je vois que Lionel Jospin est capable de dire que le président Hollande avait un peu perdu l'identité de la gauche, on mesure, et n'a pas pu se présenter, la gravité du phénomène. Quand on voit que les deux candidats, dernière présidentielle en tout cas, à la fin de la première épreuve, c'est-à-dire Manuel Valls et Benoît Hamon, ont quitté le Parti Socialiste, un mois après, ce que j'avais d'ailleurs annoncé avant. C'est là qu'on en était. Maintenant, une génération plus jeune doit reconstruire, qu'ils se rassemblent, et autour d'idées claires. Et puis après, rassembler toute la gauche. On n'a jamais fait autrement. Et d'abord, qu'est-ce qui nous sépare par rapport à l'extrême droite, par rapport à la droite ? Ce qui nous rapproche, c'est beaucoup plus fort. Et quand on n'a pas gouverné, par exemple, en 2012 avec les communistes, on a moins bien gouverné. Chaque fois que nous avons mieux gouverné, c'est quand nous avons gouverné avec les écologistes, qui ont été par Manuel Valls sortis du gouvernement et qui étaient déjà portion congrue, avec les communistes. Et lorsqu'ils s'en vont, alors la gauche est déstabilisée. Donc il faut refaire ce rassemblement. Moi, je crois... On a un problème institutionnel avec cette cinquième règle. Mais je crois quand même qu'il faut travailler, ça va sans doute dans la logique évoquée par Christian Paul là, mais d'autres aussi, d'un contrat de gouvernement. Il faut mettre les choses sur la table. Il faut maintenant dire, car il y a des sujets difficiles, le nucléaire, on voit bien qu'entre les écologistes et les communistes, il va falloir aller au bout de la discussion sur les énergies. Les institutions, bien entendu la question européenne, mais il faut avoir l'honnêteté, l'obligeance, l'ambition, vis-à-vis de nos concitoyens, et pour pas laisser le match Macron-Le Pen, pas parce qu'en soi c'est un problème, c'est un problème pour la France, c'est un problème pour notre histoire, c'est un problème pour des tas de gens au quotidien, alors il faut avoir cette ambition. Est-ce que ça va prendre 2 ans ou plus, je ne sais pas, mais oui, je crois que ce mouvement, le mouvement de l'émancipation, le mouvement de ceux qui portent ces valeurs républicaines, socialistes, écologiques, maintenant profondément chevillées, ben oui, il redressera la tête à un moment ou à un autre. Si ça peut être dans les 2 ans qui viennent, tant mieux. Si ça prend un peu plus de temps, ça prendra un peu plus de temps. Mais le grand enjeu, vous savez, pour ma génération, ce qui a été difficile, c'était de réussir. Nous avons exercé les responsabilités. C'était de réussir. Lorsque je commence à travailler avec Lionel Jospin, entre les deux septennats de François Mitterrand, l'idée d'ailleurs était faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, qu'il y ait une espèce d'adéquation, d'honnêteté de la politique, et c'était en même temps qu'il y ait un réformisme de gauche, au sens des vraies réformes de gauche, mais en même temps, pas n'importe quoi, qu'on agisse dans la réalité. On n'a jamais très bien su, finalement, théoriser cette position. On a pu agir un peu, décevoir à des moments, et puis elle n'a pas été théorisée. Si vous regardez, y compris par rapport au thème par rapport auquel vous m'avez invité, le républicanisme, il me semble que les deux grandes familles idéologiques qui ont dominé, dans le fond, ça a été d'un côté, disons, le rocardisme, la seconde gauche, de l'autre côté, le chevènementisme. Le chevènementisme, il a aussi donné naissance à Zemmour et quelques-uns que j'ai retrouvés, Paul-Marie Couteau et d'autres, à l'extrême droite. C'est douloureux de le dire, mais c'est une vérité. Et la seconde gauche, elle a donné naissance à Macron, qui l'a y compris financé. Et nous, au centre, où sommes-nous ? Donc, il faut reconstruire. Et il faut reconstruire ce réformisme de gauche au centre, avec des gens authentiquement de gauche et qui ne s'égarent pas d'un côté ou de l'autre. Et dans le fond, vous voyez, la bataille politique, elle a d'abord été perdue sur le plan intellectuel. J'en suis absolument convaincu.
D'où ce festival des idées qu'organise donc l'ancien député Christian Paul ce week-end à la Charité-sur-Loire. Il vous a invité ? Vous allez y aller ?
Je suis encombrant un peu, mais j'ai une grande amitié pour Christian Paul et je crois, vous savez, il est de ma génération, il avait été un des fondateurs du nouveau Parti Socialiste, on s'est accompagné très longtemps, il a été secrétaire d'État de Lionel Jospin, il a été après un peu en difficulté avec François Hollande. Je pense que ce qu'il fait est très bien et dans ceux de ma génération, il est un de ceux, Olivier Faure me l'a dit d'ailleurs, qui de façon, vraiment il n'a aucun intérêt personnel, hein, est le plus engagé, présent, cherche à aider la nouvelle génération et ça participe, ce festival, de ce travail, que les uns et les autres se parlent et que les uns et les autres travaillent sur le fond.
Cette réinvention, Vincent Peillon, de la gauche ou du socialisme à l'ère de l'écologie, cette réinvention donc du socialisme va de pair de toute façon avec le républicanisme dont nous parlons ce matin et dont vous parlez dans votre livre L'émancipation, qui est un recueil donc des sept philosophies politiques. Vous le citez vous-même, Pierre Leroux, auquel vous avez consacré d'ailleurs un ouvrage. Vous citez Pierre Leroux qui disait « République et socialisme sont deux idées adéquates ».
Oui, parce que ce mouvement, c'est une des très grandes, c'est une grandeur de la France dans le fond. Ce mouvement de la devise liberté, égalité, fraternité. Il n'y a de liberté que s'il y a égalité. Égalité des citoyens, donc égalité juridique, mais aussi économique. La fraternité rajoute deux dimensions. C'est que pour l'égalité économique, il faut une attention à l'autre, le soin, comme on dit aujourd'hui. Il faut la capacité d'avoir souci des plus. Et en même temps, la fraternité, c'est la dimension cosmopolitique dont on parlait tout à l'heure. Si on accomplit le mouvement républicain, c'est ce que disait aussi Jaurès, hein, qui reprenait Leroux, eh bien, nous avons le socialisme. Pas le socialisme d'État. Pas le socialisme au sens marxiste, puisque c'est un socialisme libéral, individualiste, coopératif, etc., le socialisme français, Mais effectivement, l'un et l'autre sont adéquats. Le premier à le dire, c'est évidemment, il en revendiquait de façon un peu orgueilleuse la paternité, c'est Pierre Leroux. J'ai mis le socialisme dans la République, j'ai mis la République dans le socialisme. Mais regardez l'histoire. Finalement, ce qui se passe dans notre pays depuis deux siècles, c'est ce décalage par lequel des idées considérées de gauche, voire d'extrême gauche, l'égalité des femmes, la suppression du travail des enfants, l'école pour tous, vous savez, ça met du temps l'école pour tous, hein, eh bien ces idées qui sont brocardées par la droite, le centre, pendant des années, deviennent après le patrimoine commun. L'abolition de l'esclavage, on parle en ce moment, j'ai écouté Schœlcher. Schœlcher siège à l'extrême gauche en 1848 et beaucoup de gens s'y opposent. Bon. Donc on voit bien que l'histoire de la République, c'est une histoire par laquelle des positions émancipatrices, qui sont celles d'une minorité à un moment, deviennent des positions collectives. Et nous avançons comme ça.
Mais Vincent Peillon, est-ce que vous ne regardez pas l'histoire d'un seul côté ? Si je vous pose cette question, c'est que on entendait tout à l'heure, à la fin du discours d'Emmanuel Macron hier, le président parler de la gravité lucide qui est notre moment que nous vivons aujourd'hui et des menaces qui pèsent sur notre République. Ce qui fait écho d'ailleurs à un livre qui sort ces jours-ci de Pierre Vermeren intitulé « On a cassé la République, 150 ans d'histoire de la nation » dans lequel il dit « Tout ce qui avait fait entrer et adhérer les Français à la République est révisé, dévalué, souvent rejeté, voire honni » et il cite pêle-mêle « Le roman national, l'assimilation à la française, l'école des hussards noirs jugée autoritaire et nationaliste, l'ascension au mérite, la morale républicaine et le code civil, le sabre et le goupillon, l'alliance de l'armée et de l'église, le capitalisme familial, l'agriculture paysanne, l'épargne et les valeurs de la bourgeoisie de province, le respect des institutions et des corps constitués, la classe ouvrière et le PCF, la famille et l'autorité du père de famille, l'équilibre budgétaire, un nationalisme cocardier, la fierté française. » Voilà, on s'arrête là. Est-ce que...
C'est effrayant, je vous dis mon avis, c'est vraiment... Alors,
qu'est-ce qui est
plus,
effrayant ?
Il a fait un bon travail, parce qu'il a fait vraiment l'énumération de toutes les pensées réactionnaires qui devraient nous faire croire que la République, par exemple la Troisième, elle séparait les enfants, vous savez, il y avait deux écoles primaires. Là, les gens l'ont oublié. Bon. Il y avait la première fille bachelière, c'est les années 20 dans certains bancs. Quand j'étais petit... On a jeté encore des Arabes dans la Seine. Bon, donc de quelle République sont-ils nostalgiques ? Pensent-ils de la République laquelle ? Donc c'est un roman national, comme il dit. La République, elle a des vraies valeurs, y compris d'esprit critique et de vérité scientifique. Là, nous avons affaire vraiment à une forme d'analphabétisme historique ça n'est pas bien. Donc on vend, nous avons commencé l'émission là-dessus, on vend quelque chose qui n'est pas la République en faisant croire que c'est la République. Et donc ça fait que la République devient l'apanage des réactionnaires. Et dès lors que cette belle idée émancipatrice, cette idée extrêmement exigeante sur le plan des libertés, sur le plan de l'information, sur le plan social, est galvaudée comme ça, alors oui, là il y a un danger. Mais c'est pas le danger que pointe le président de la République. Et là aussi, il faut faire attention parce que on voit bien, on a un été, on a l'impression, tout le monde s'exprime pour alimenter les chaînes infos maintenant, y compris les hommes politiques. Ce qui fait d'ailleurs que je me suis éloigné de cette activité. Mais quoi ? En quoi la République est-elle en crise cet été ?
Le président de la République évoque le séparatisme et d'ailleurs ce discours d'hier est un préambule à la loi sur le séparatisme qu'il présentera à l'automne.
L'indivisibilité qui est dans notre constitution et qui a évoqué le président Macron ne signifie absolument pas ça. L'indivisibilité, c'est celle de la souveraineté nationale, qui veut dire qu'une personne ou un groupe de personnes ne peut pas prendre l'entièreté de la souveraineté nationale. Et donc il faut qu'on décide encore, comme disait Rousseau. Qu'il y ait des Bretons, qu'il y ait des Basques, qu'il y ait ça ne doit pas gêner la République. Qu'il y ait des gens qui pensent différemment, qu'il y ait des confessions différentes. Donc le séparatisme, ça veut dire quoi ? Alors là, on désigne abstraitement ceux qui ont Dieu, etc. Donc ça flatte certaines oreilles, sans être assez précis pour qu'on puisse dire exactement ce dont il s'agit. Mais moi, je pense qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Je crois, vous saviez, j'avais mis en place à l'école de la République la morale laïque, j'ai remis en place l'enseignement moral et civique, je l'ai accentué, il existait déjà. Et puis j'ai vu les réactions, c'est-à-dire que les mêmes qui réclament tout le temps, dans le fond, du civisme, sont les premiers à parfois s'en exonérer. Et quand on parle de séparatisme, il y a une question fondamentale qu'on doit se poser. Il y a un séparatisme économique, social, il y a une sécession des élites. Quand on parle de communautarisme, on vise directement les banlieues, les enfants de... Mais il y a aussi un communautarisme social des élites. Il existe, je le connais, je l'ai rencontré, il suffit de regarder qui dirige. Donc je crois qu'il faudrait prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça, ne pas instrumentaliser la République et revenir tout simplement à l'enseignement de ses valeurs, y compris de ses principes, et y compris avec la dimension critique, qui seule peut faire qu'on réunisse les gens. Car la République, parfois, elle n'a pas fait du bien à tout le monde. Donc, il faut aussi affronter cet aspect-là et cette dialectique que j'évoquais au début de l'idéal républicain et des réalités républicaines.
Grande question, est-ce qu'il faut réactiver l'idée originelle ou l'adapter à la société actuelle sur la République et la citoyenneté? Le temps du débat de Raphaël Bourgois y reviendra tout à l'heure à 18h10 sur France Culture avec Didier Lesquisse, Saber Mansouri et Chloé Gaborio.